Salut, c'est Ziad et Simon de l'atelier des médias RFI. Lundi dernier, l'atelier s'est délocalisé au centre Georges Pompidou à Paris pour enregistrer la dernière conférence du cycle culture numérique de la BPI, la Bibliothèque publique d'information. Le thème de la soirée était anatomie d'une rencontre en ligne. Restitution de cet événement débat aujourd'hui dans l'atelier des médias.
J'ai remarqué que quand on voit une personne en face, on peut pas tout dire. Que par message, c'est plus facile de se confier en fait.
Internet a été le média parfait pour moi, c'est-à-dire le fameux écran qui permet d'avoir une certaine distance.
J'ai jamais rencontré autant de gens différents. J'ai jamais eu de rapport sexuel avec autant de femmes différentes. Du reste de ma vie jusqu'à ces dates-là, quoi.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuse.
Et vous.
Anatomie d'une rencontre en ligne. Lorsqu'on me demande de quoi parle l'émission L'Atelier des médias que j'anime sur RFI, je réponds souvent des médias au sens très large. Et j'ajoute de l'Internet en particulier, de la manière dont ce réseau modifie notre quotidien. Notre quotidien de citoyen, de consommateur, de curieux et, bien entendu, je donne toujours l'exemple également des relations amoureuses. La mise en réseau décentralisé des individus, la capacité de diffuser des informations personnelles, des messages, des photos à des milliers, des millions de personnes immédiatement et pour un coût en général nul, la possibilité de se cacher derrière un proxy, derrière une IP, derrière un avatar, derrière un pseudonyme, la facilité avec laquelle on peut se rassembler autour de valeurs, de goûts, d'attirances, de secrets partagés, tout cela, l'Internet et le web l'ont offert il y a une vingtaine d'années. Tout cela, bien entendu, influe, affecte, remet en cause, modifie, interroge les relations humaines et plus encore les relations amoureuses. L'amour, l'affectif, la rencontre avec tout ce que cela véhicule de mystère, de pudeur, de tabou est probablement le domaine où l'influence de l'ère numérique pose les questions les plus complexes. Étudier les sites de rencontres, comme l'ont fait nos trois invités aujourd'hui, montre de manière vertigineuse le rôle à la fois révélateur et perturbateur de l'Internet. Dans trois disciplines différentes, le journalisme, la sociologie et la philosophie, nos invités ont choisi d'explorer les sites de rencontres et d'y consacrer leurs écrits. Beaucoup d'éléments communs et d'interrogations se retrouvent dans les trois approches. Bien entendu, les sites de rencontres ne sont que la partie la plus visible, la plus évidente et probablement la plus intéressante à étudier dans le domaine de la rencontre en ligne. Ils n'ont pas le monopole puisque tous les outils de communication, mails, réseaux sociaux, blogs, espaces de commentaires même, sont également propices à l'échange et à la rencontre. Pour appuyer nos débats sur des paroles et des témoignages, l'équipe de la BPI et moi-même avons demandé à la journaliste et documentariste audio Pauline Mocor de contribuer à cette rencontre en recueillant des témoignages. Elle a choisi d'interroger trois hommes d'âge et de goûts différents. Nous entendrons leurs récits, leurs témoignages au fur et à mesure de la table ronde.
RFI.
Bonjour Stéphane Rose.
Bonjour.
Je vous donne la parole en premier parce que vous êtes ici à deux titres au moins. D'abord, comme journaliste écrivain, vous avez publié à La Musardine, donc la maison d'édition à La Musardine, un petit livre consacré au site de rencontre. Il a pour titre misère-sexuelle.com, sous-titre Le livre noir des sites de rencontre. Et ce livre, deuxième raison pour laquelle je vous donne la parole en premier, en dehors de votre enquête, est basé sur 10 ans d'utilisation personnelle de ces sites. Tout à fait. Je me suis inscrit la première fois sur Mythique il y a une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai fait régulièrement des sauts sur les sites de rencontres plus ou moins longs. Et très vite, je me suis dit que... Bon, je les utilisais pour mon compte personnel, mais très vite, je notais des choses. Je faisais des captures d'écran, je notais des extraits d'annonces en me disant « faudra que j'en fasse quelque chose un jour ». J'en ai d'abord fait un roman qui s'appelle « Pourvu qu'elle soit rousse ». Et ensuite, je me dis « faut vraiment que j'en fasse un essai ». Et 10 ans après... Aux alentours de 2011, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de publicité pour les sites de rencontres dans le métro. C'était vraiment en train de sortir de la marginalité. Et je ne voyais que des gens qui en disaient du bien, qui disaient que c'était un monde idyllique, que c'était la révolution amoureuse et sexuelle bis. Et c'était pas du tout l'idée que je m'en suis faite. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses sur les sites de rencontres, mais il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises choses et de pièges à éviter. Et je me suis dit, je vais faire ce livre, Misère sexuelle, pour montrer un regard alternatif à tout ce regard idyllique qu'on porte dessus.
Alors c'est un livre de journaliste. Avant ça, c'est un livre très personnel. C'est un livre qui raconte votre relation à ces réseaux sociaux, à ces réseaux de rencontres, ces sites de rencontres. Qu'est-ce que c'est votre relation à ces sites ?
Elle change. Déjà, il y a 10 ans, c'était beaucoup moins assumé qu'aujourd'hui et c'était un petit peu la loose d'être sur un site de rencontre. On était soit pionnier, on était dans une sorte de marginalité. Au début, je me posais pas la question, donc j'ai été happé par cette espèce d'océan infini de possibilités. Et au fil du temps, et aussi au fil du temps perdu, parce qu'on perd beaucoup de temps sur les sites de rencontres, et il y a un moment où on a autre chose à faire de sa vie que d'aller boire des coups avec des gens avec qui il se passera rien, je les ai utilisés de façon raisonnable, c'est-à-dire une discussion par une et pas 50 discussions en même temps. De temps en temps, je vais boire un verre si ça se passe bien, et voilà.
Et donc, vous avez choisi, après cette expérience personnelle, d'ailleurs peut-être que vous les utilisez toujours, ces sites de rencontres, d'y consacrer un livre qui a un titre particulier, misère-sexuelle.com, c'est un parti pris, le titre.
Oui, alors c'est volontairement provoque. C'est pour dire, on va pas dire du bien. Mais le propos est un petit peu plus nuancé. C'est-à-dire que globalement, l'idée, c'est que ça peut être un outil formidable si on l'utilise de façon raisonnable et entre guillemets éthique. Et ça peut être aussi un piège redoutable si on n'a pas pensé à sa pratique des sites de rencontres. Mais globalement, l'idée, c'était de dire, voilà tout ce que j'ai découvert, qu'on vous montre pas dans les médias et qui est un peu glauque sur les sites de rencontres. Donc ça part de mon propre témoignage et de l'étoffer avec un grand nombre de témoignages. J'ai fait un appel à témoins et beaucoup de gens ont répondu spontanément. Et il y avait un effet libératoire, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient dire « Non, c'est pas génial les sites de rencontres, voilà ce que j'ai rencontré dessus ».
Certes, je vous cite un petit peu pour donner une idée du livre et puis de son état d'esprit, de ce qu'il dit. « Certes, on peut rester un temps bref sur un site de rencontre, trouver son amoureux ou son amoureuse et s'en désinscrire. Ce genre d'histoire se produit tous les jours, mais beaucoup n'ont justement pas l'envie ou la capacité de se désinscrire. Séduits par les possibilités infinies des sites de rencontres, ils finissent par se laisser happer par une nouvelle façon de considérer les relations amoureuses et ou sexuelles. Une façon plus impatiente, consumériste, addictive, hystérique et, osons le dire, névrotique, qui modifie en profondeur leur relation au sexe opposé. C'est de cette population, beaucoup plus étendue qu'on ne l'imagine et en passe de devenir majoritaire, que je voudrais parler dans ce livre.
Oui, ça donne le ton.
On passe de devenir majoritaire.
En tout cas, parmi les gens qui fréquentent les sites de rencontres. Et je pense aussi, après, j'ai pas de données non plus sur les habitudes amoureuses de la population française, mais je pense que, je sais pas si c'est les sites de rencontres qui génèrent des mutations dans le couple ou s'ils ne font que répondre à quelque chose qui est en train de se produire. Ça, nos collègues sociologues et philosophes pourront nous le dire. Mais de fait, en tout cas en France, qui est un pays globalement laïque, où la culture, la pratique religieuse est moindre que dans d'autres pays, et où donc on a pu cette espèce d'héritage judéo-chrétien du couple, et où on place la liberté maintenant presque au sommet des valeurs de l'épanouissement, forcément ça a des conséquences. On ne s'engage plus pour le meilleur et pour le pire. On a des injonctions d'épanouissement sexuel partout à longueur de page dans la presse magazine ou à la télé. Et donc, nous, on est là, on se dit, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être aimé, mais en même temps, je veux m'épanouir sexuellement. Je veux avoir une vie libertine. Je vois pas pourquoi je passerais ma vie avec le même partenaire quand mes copains et mes copines en ont déjà eu 50 ou 100. Je veux ma part du gâteau. Et donc, je vais sur un site de rencontre. Mais c'est pas les sites de rencontre qui génèrent ça. C'est nous qui générons cette
offre-là des sites de rencontres.
L'architecture du livre s'articule en quatre sortes de parties qui sont un petit peu les enseignements tirés de témoignages et de votre expérience. Je vais vous les citer, puis vous voulez commenter pour expliquer. Donc la première, c'est l'aspect faussement démocratique des sites de rencontres et la misère sexuelle qu'on y rencontre.
Oui, ça c'est un grand mensonge véhiculé par les pubs pour les sites de rencontres qui prétend que grâce au site de rencontre, n'importe qui a sa chance et tout le monde va trouver l'amour et tout le monde va trouver le plan cul de ses rêves. Et ce que j'ai remarqué très vite, c'est que quand on ne séduit pas dans la vraie vie, on ne séduit pas non plus sur les sites de rencontre. Et on peut le mesurer très facilement en lisant les annonces des gens. Il y a beaucoup d'annonces qui sont pleines d'aigreurs. C'était pourquoi vous venez pas me parler, des choses très simples comme ça. Et quand on rentre là-dedans, on s'attend à voilà à rentrer dans une espèce de paradis merveilleux de la rencontre et on ne tombe que sur des gens aigris. Donc déjà, on se dit, mais dans quoi j'ai mis les pieds ?
La tradition est l'art du mensonge qui y règne.
Oui, beaucoup de gens mentent sur les sites de rencontres, à des degrés divers. Bon, voilà, on ment sur son âge, on ment sur son apparence physique, on ment sur son métier. Et même quand on essaye d'être honnête et transparent au début, à force d'être confronté à des mensonges et des gens qui nous mentent, on se met à mentir nous-mêmes. C'est-à-dire que le marché est tellement concurrentiel que pour être plus séduisant que le voisin, des fois, moi, le témoignage le plus frappant que j'ai recueilli pour ce livre, c'est une femme qui avait rencontré un homme noir qui était victime de racisme, en tout cas qui ne rencontrait pas, et qui avait mis le profil d'un homme blanc, et qui allait ensuite au rendez-vous avec son visage noir. Donc ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Mais dans quel désarroi il doit être aussi pour en arriver là ?
L'approche consommatrice, je m'en foutiste et déshumanisée de la relation amoureuse qu'ils induisent.
Bon,
c'est de plus en plus triste, hein.
Ouais, mais là, forcément, prenez un exemple. Vous discutez avec une nana qui vous plaît, vous avez rendez-vous avec elle, et puis dans l'après-midi, vous en avez chopé une autre, puis vous dites, ah ben non, elle, je vais pas y aller, puis vous lui posez un lapin, vous lui envoyez même pas un texto parce que l'autre est mieux. Puis finalement, le surlendemain, il y en aura une troisième, et voilà. Donc, on se fait poser des lapins, on démarre des histoires, auxquelles on ne donne pas suite sans prendre le temps de dire pourquoi. C'est-à-dire que ce qui fait la magie d'une rencontre, les débuts de la magie d'une rencontre, ça peut rapidement ne plus exister. Et à l'inverse, quand ça s'arrête, on prend pas le temps d'en faire son deuil. Et...
Alors, je résiste pas à l'envie de citer une des phrases qu'on peut lire dans l'ouvrage, qui montre à la fois votre humour et la manière dont les sites de rencontres ont modifié la réalité amoureuse, tout en ne changeant peut-être pas grand-chose dans le fond. Je cite « Dans ses mémoires, Casanova confessa avoir séduit une centaine de femmes, un chiffre peut-être impressionnant à l'époque, mais qui ferait sourire un don Juan des temps modernes. Avec un ordinateur, une connexion internet et un abonnement à Mythique, Casanova aurait séduit 10 000 femmes et multiplié son insondable solitude en proportion. »
Bah oui, parce qu'au final, c'est ça. Quand on se perd dans l'addiction et la compulsion sexuelle, on est seul.
Bonjour Marie Bergström.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'Observatoire sociologique du changement à Sciences Po à Paris. L'Observatoire sociologique du changement, ça va très bien avec les sites de rencontres et les rencontres en ligne. Votre recherche est justement consacrée aux sites de rencontres. Votre thèse que vous allez soutenir mardi prochain a pour titre « Au bonheur des rencontres », c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Sous-titre « Sexualité, classe et rapport de genre dans la production et l'usage des sites de rencontres en France ». Alors je remarque déjà un clin d'œil dans le titre « Au bonheur des rencontres », ça fait penser à « Au bonheur des dames »,
oui,
c'est ça,
c'est
de Zola.
Bien ça, oui.
Et donc avec cette idée que les sites de rencontres sont un petit peu des supermarchés.
En fait, le titre, c'est en fait pour relever une spécificité des sites de rencontres, qui est la diffusion inédite d'un service de rencontre. C'est-à-dire, ces sites, ils s'inscrivent finalement dans la lignée d'autres types de services, comme les annonces matrimoniales, les petites annonces, les agences matrimoniales, mais aussi le Minitel. Il y a eu les messageries conviviales sur le Minitel. Donc, l'histoire des services de rencontre est longue, mais pour la première fois, avec les sites de rencontre, on a une diffusion, une banalisation de recours à des services commerciaux pour rencontrer des partenaires. Et donc, j'ai voulu souligner cette spécificité.
Pourquoi une jeune sociologue comme vous choisit de s'intéresser aux sites de rencontre? Et je précise d'ailleurs que votre thèse qui est soutenue la semaine prochaine sera la première thèse d'université sur le sujet.
Oui, c'est bien ça. Pourquoi les sites de rencontre? Pour moi, il y avait deux raisons. La première, c'est parce que c'est un nouveau moyen de rencontre important. Je voulais voir ce que ça change. Et en même temps, je me suis dit que ces sites, c'est un point d'observation intéressant sur comment les hommes et les femmes s'engagent dans la sexualité et la conjugalité aujourd'hui. Donc c'était à la fois de voir qu'est-ce qui change et qu'est-ce que ça nous permet de voir sur les normes et les pratiques amoureuses et sexuelles aujourd'hui.
Et comment vous faites faites alors quand vous décidez, il y a presque une dizaine d'années maintenant, de consacrer votre travail de sociologue à ce sujet? Comment vous procédez?
D'abord, c'est le temps de l'enquête. Donc j'ai mené au total plus de 10 enquêtes sur l'usage des sites, donc à la fois des enquêtes où je vais aller voir, parler avec des utilisateurs, j'ai mené des entretiens, donc comprendre le vécu, mais aussi des enquêtes donc quantitatives où on prend une autre perspective, un peu plus d'en haut, pour voir quel est le taux d'usage, comment ça évolue, qui sont ceux qui se sont inscrits, quelles sont les modalités d'usage, etc. Et aussi une enquête sur les concepteurs. Les sites sont un nouveau moyen de rencontre pour les hommes et les femmes qui les fréquentent, mais c'est aussi un nouveau marché économique. Et c'est aussi intéressant de s'intéresser à ces acteurs-là, comment ils produisent les sites et comment ils les promeuvent, etc. L'idée derrière, c'est de dire aujourd'hui, on parle des rencontres en ligne, aux rencontres sur Internet, et on a tendance à voir ça comme une pratique homogène et considère que l'usager, c'est un internaute, c'est un célibataire. Et tout ça, c'est très global. Et en fait, en tant que sociologue, on s'intéresse justement à la diversité des pratiques. C'est-à-dire que une jeune fille de 18 ans qui s'inscrit, elle n'aura pas le même usage qu'un homme de 45 ans avec deux enfants, divorcé, etc. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a des usages des sites de rencontre. Et aussi, il faut considérer que certains utilisateurs, bon, ils s'inscrivent une fois, ils disent c'était pas pour moi, ils désinscrivent. D'autres s'inscrivent sur une semaine, un mois, mais ça s'arrête là. Et d'autres ont un usage plus intensif. Donc c'est important de souligner que les usages qui sont faits, les expériences sont très diverses. Et il faut aller étudier ça dans les nuances et dans les diversités.
Et pour étudier ça, vous avez commencé par répertorier les sites qui existaient pour le public francophone. Et à l'époque, donc c'était en 2008, votre enquête, vous avez publié en 2011, vous avez compté 1045 sites de rencontres en français.
Oui, donc cette mon idée, c'était de... Bon, on va parler de sites de rencontres, il faut voir ce que c'est et ce qui existe. Donc quand quelqu'un se connecte sur Internet, qu'est-ce qu'on trouve? Et c'est d'autant plus important qu'il y a des sites dominants comme Itik qui est presque devenu un synonyme de sites de rencontres. Il faut savoir que derrière Itik, il y a beaucoup d'autres types de sites. Et donc l'idée, c'était de voir donc la nature de ces sites et de voir comment ce marché fonctionne et comment il est organisé. En fait, il faut savoir que les sites de rencontres, ce sont des sites très standardisés et les concepteurs, ils se copient très largement les uns des autres. Donc, ce qui différencie les sites aujourd'hui, c'est souvent aujourd'hui le ciblage, c'est-à-dire on dit on est un site de rencontres pour seniors, pour des adolescents, etc. Mais souvent, on ne change pas.
J'ai découvert un site qui vise les seniors et les jeunes filles, c'est-à-dire que ça s'appelle Sugar Daddy. Oui, Sugar Daddy. Oui. Donc, c'est si on est une jeune fille et qu'on veut rencontrer un senior ou inversement.
Un senior riche.
Une dernière différence qui est fréquente, c'est la catégorie sociale. On va s'adresser à des gens plutôt aisés, etc., etc.
C'est pas finalement une différenciation selon les milieux sociaux, c'est plutôt que ce sont les classes supérieures qui ont été prises comme cibles par certains sites, donc qui, encore une fois, dans une perspective ou une stratégie de segmentation de marché, on voit face à la concurrence du mythique, on n'attaque pas frontalement, mais plutôt latéralement, et on essaie d'occuper des segments de marché et de cibler des populations.
Et des gens qui, d'ailleurs, ont souvent les moyens de payer de fortes sommes, parce que ce qu'ils ont souvent en commun aussi ces sites, c'est qu'ils sont payants et assez chers. Jusqu'à 500 euros par an pour les sites qui visent ces classes les plus aisées.
Oui.
En 2012, vous avez publié un autre article qui s'appelle « Nouveaux scénarios et pratiques sexuelles chez les jeunes utilisateurs de sites de rencontres ». Je vais lire un passage qui résume un peu le propos. Vous pourrez commenter rapidement. « Les sites changent les manières habituelles de faire et sont générateurs de pratiques nouvelles. Une étude menée auprès de jeunes utilisateurs hétérosexuels montre en effet comment l'usage de ces sites s'accompagne d'un élargissement du répertoire des pratiques sexuelles et d'un nouveau scénario de rencontre qui favorise les relations sexuelles de courte durée. »
Oui, mais il faut aussi garder en tête, et c'est un point qu'on souligne, je pense, trop rarement quand il s'agit des rencontres en ligne, c'est une spécificité importante qui est que ces relations, elles portent moins à conséquences. Parce que lors des rencontres ordinaires, c'est quoi? On se rencontre dans une soirée, au travail, sur le lieu d'études. Donc souvent, ces personnes qu'on connaît, où il y a une interconnaissance, souvent il y a un public, souvent assez curieux, qui veut savoir comment ça se passe. Alors que sur les sites de rencontres, on fait des rencontres en dehors et à l'insu de son cercle de sociabilité, de manière anonyme. Donc finalement, c'est des rencontres qui sont beaucoup plus discrètes. Et finalement, on réfléchit un peu moins avant de s'engager dans une relation sexuelle qu'on le fait dans un contexte ordinaire. Donc je pense que si les rencontres en ligne mènent souvent à des relations courtes, c'est pas forcément prévu, anticipé. C'est aussi le contexte particulier sur ces sites qui fait que ça va souvent assez vite et ça devient aussi souvent sexuel.
Hey, votre connexion Internet fonctionne ?
L'atelier des médias.
On marque une courte pause dans l'atelier. On se retrouve dans un instant, toujours avec nos invités au centre Georges Pompidou à Paris.
Nous nous ferons un plaisir de vous tenir informés dès que notre connexion Internet sera rétablie.